au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, peut-on, doit-on représenter le divin ? Dieu est-il illustrable, si vous me permettez ce mot ? L'invisible peut-il être représenté en images ? La représentation du divin est un débat qui a agité les siècles et les diverses religions européennes, un débat qui devient beaucoup mieux perceptible aux profanes que nous sommes, grâce à l'ouvrage d'Alain Besançon, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ouvrage intitulé « L'image interdite, une histoire intellectuelle de l'iconoclasme » paru il y a quelques années aux éditions Fayard et même réédité chez Folio et revu par l'auteur, m'a-t-il confié. Monsieur Besançon, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être présent à Canal Académie. Ma première question tient plutôt de l'art naïf que de l'art religieux. Quelle est la différence entre une image profane et une image sacrée ?
Ah, eh bien, écoutez, tout simplement, c'est qu'une image profane représente les choses de la nature, celles qui sont sous le ciel. Et que les images sacrées représentent des choses invisibles, enfin des choses divines. Hein, ça peut être les dieux antiques, hein, qui étaient représentés très abondamment par les Égyptiens ou par les Grecs, ou les Romains. Et puis ça peut représenter également le Christ dont on a perdu le prototype, les saints dont on a perdu l'image. Donc des choses qui relèvent du ciel. Voilà.
Voilà. Alors maintenant que nous savons, est-ce que nous sommes autorisés à dire qu'il y a des religions qui interdisent les images, judaïsme, islam et protestantisme, et des religions qui l'autorisent, catholicisme et orthodoxie, sauf à certaines périodes ?
Oui.
Peut-on classer comme
oui,
ça
alors,
grossièrement
pour
les choses ?
Pour des raisons différentes. Disons que le judaïsme interdisait l'image parce que Dieu le lui avait interdit, n'est-ce pas ? Dans la Torah, Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne représenteras rien de ce qui est sous le ciel, justement, et sur la terre. Hein. Et même les astres n'ont pas le droit de les représenter, parce que Dieu crée pour son peuple l'idolâtrie. Hein. Donc, et comme Dieu avait en même temps une relation extrêmement intime avec Israël, puisqu'il parlait directement à Moïse, etc., on comprend que pour le peuple juif, Dieu était en somme trop proche hein, pour qu'on puisse l'imaginer représenté d'une façon quelconque, ou alors il y aurait un danger d'idolâtrie extrêmement grave. Le veau d'or, c'était justement...
Est une représentation imagée.
C'était une représentation, c'était une façon de mettre la main sur le Dieu d'Israël. Ce n'était pas un reniement du Dieu d'Israël, mais c'était une façon de mettre la main sur lui. Et Dieu n'a pas été content, il l'a tué, je crois.
Il s'est fâché
très très fort.
Néanmoins, alors, ce Dieu a créé l'homme à son image, donc
ce n'est pas un Dieu hostile
à l'image.
C'est une idée qui va plutôt être exploitée par les chrétiens, parce que ce Dieu s'est incarné dans un homme, en fin de compte, dans un homme représentable avec un corps. Mais alors, pour revenir à l'islam, alors là, c'est tout à fait différent, c'est parce que Dieu est trop loin. Dieu est trop loin, par conséquent, l'idée de le représenter est tout simplement inimaginable. Il n'a parlé qu'une fois aux hommes par l'intermédiaire du Coran, mais c'est un Dieu qui reste profondément séparé. Et l'idée d'incarnation, ou même d'alliance comme chez les Juifs, ou d'incarnation comme chez les chrétiens, c'est l'idée tout à fait étrangère à l'islam. Alors, la question des chrétiens, c'est le Christ, il est Dieu, hein, dans la religion chrétienne. Alors, est-ce qu'on peut le représenter ? Et si on le représente, est-ce qu'on représente Dieu ? Et au fond, ça a été ça, la question de l'iconoclasme. Alors évidemment, ceux qui n'étaient pas très sûrs que le Christ fût Dieu, par exemple les Ariens, on ne représentait pas Dieu, on représentait quelque chose d'un peu inférieur qui était le Christ. Pour les monophysites, le Christ avait la nature divine avait complètement absorbé la nature humaine, si bien qu'on ne pouvait pas représenter Dieu non plus, parce que ça aurait été une absurdité. On ne pouvait pas représenter sur une planche de bois quelque chose qui avait été assumé complètement dans la divinité, à savoir le Christ Dieu. Bien, alors, vous avez donc des controverses extrêmement graves.
Des querelles, comme on a appelé ça.
Les grandes querelles de l'iconoclasme, oui, mais ça a été une guerre, ça a été une guerre d'un siècle.
C'était même des guerres civiles.
Ah ben oui, tout
c'est justement une question que je voulais vous poser. Est-ce que l'iconoclasme s'est toujours manifesté au fil des siècles de façon violente?
Bah, ma foi, souvent.
Ou est-ce qu'il y a des interdictions par décret,
non, par exemple, qui ne sont pas violentes?
Au
moment de la grande querelle iconoclaste, toutes les images ont été détruites. Quand Calvin a ressuscité les arguments de l'iconoclasme, on a détruit les images. Les protestants ont cassé les vitraux, détruit les statues, ils ont fait sauter, rien qu'en France, 27 cathédrales. Ça, c'est quand même considérable. Les calvinistes, parce que les luthériens mettaient plus ou moins l'image, enfin, ils l'acceptaient. Mais enfin, les calvinistes, et surtout les bandes calvinistes qui dépassaient même l'opinion de Calvin, ont cassé les images. Alors, le vandalisme révolutionnaire est en partie religieux. Il est en partie...
Oui.
Et là, quand même, il y a encore une immense destruction.
Oui.
Donc,
c'est toujours violent.
Ah bah, en France, l'art a été mutilé par ces deux grandes crises iconoclastes de façon terrifiante.
Mais alors, dans votre livre, on comprend très bien qu'il y a des actions violentes d'iconoclastes qui agissent sur la matière, sur les œuvres. Mais il y a aussi, comme vous dites, celles qui agiraient sur la fécondité créatrice.
Ah oui, mais alors
c'est un autre aspect.
Ça, c'est l'iconoclasme moderne. Et ça, ça vient de la religion philosophique, n'est-ce pas ? Platon Platon, Aristote, presque toute la philosophie antique, même les stoïciens, disaient que l'idée du Dieu matérialisé dans l'image, comme les Grecs, les Romains, les Égyptiens le faisaient, c'est-à-dire en général un corps humain, ce qu'on révérait comme un Dieu, eh bien que ce n'était pas digne de l'idée de Dieu qui commençait à se créer et à se perfectionner. Et Platon, n'est-ce pas, est contre l'art. Et les arguments platoniciens ont été repris à différentes reprises dans le christianisme, hein, pour de nouveau dire l'idée du Dieu que nous avons est une idée beaucoup trop élevée, c'est un véritable blasphème que de vouloir le représenter. Ça, c'est la position de Calvin. Calvin dit Dieu nous a parlé, donc il faut diffuser sa parole, et l'image, c'est un retour à l'idolâtrie, surtout l'image dans le temple. Voilà. Il veut bien qu'on fasse de l'art, mais comme on fait les Hollandais, c'est-à-dire des natures mortes, des paysages, des portraits, des choses comme ça. Mais dans la peinture qu'on met dans le temple pour l'orner et pour exciter la piété des fidèles, ça, il l'interdisait absolument.
Ça a conduit
à la destruction de toute la peinture primitive française et hollandaise.
Oui, ce qui est terrible, oui.
Tout ce qui reste de l'art français de l'époque, c'est les livres d'heures, c'est les miniatures. Qui sont d'ailleurs merveilleuses et qui nous font regretter la peinture du XVe siècle. Elle existe un peu à Avignon, puisque les papes c'est un territoire pontifical. Par conséquent, les bandes calvinistes n'y ont pas fait les destructions d'ailleurs.
Alors, avec Alain Besançon, nous évoquons donc l'histoire des images religieuses et de leur destruction, quelquefois. Donc, quelques grandes dates de cette histoire de l'iconoclasme. L'année 600.
Oui,
lettre de Grégoire le Grand.
Oui, c'était un pape qui reprochait à l'évêque de Marseille d'avoir, au nom des idées iconoclastes que je vous ai dit, parce qu'il y avait un iconoclasme chrétien, d'avoir détruit toutes les images de Marseille. Et Léon le Grand lui dit, tu vas décourager les gens qui sont déjà faiblement chrétiens, les images leur enseignent les vérités de la foi, qui ne peuvent pas atteindre par la parole parce qu'ils sont illettrés, qui ne savent pas lire. Donc c'est un adjuvant à la fois extrêmement précieuse et en détruisant les images, eh bien ton troupeau va se disperser.
Donc Grégoire le Grand, là, énonce finalement ce que l'Église considérera au fil des siècles relativement toujours de la même façon, la fonction pédagogique de l'image.
Voilà, et ça c'est une chose qui différencie les latins des orientaux, c'est-à-dire de la chrétienté orthodoxe. C'est que les orthodoxes ont beaucoup spéculé théologiquement sur l'image, alors que Grégoire le Grand,
Grégoire.
J'ai dit Léon, parce qu'il y a eu un Léon le Grand, mais c'est Grégoire le Grand. Eh bien, il place la question de l'image non pas sur un plan théologique, mais sur un plan rhétorique.
Oui, voilà, l'image est utile au peuple pour qu'il comprenne.
Elle est utile au peuple, elle le pousse vers le vrai, elle l'attire vers le vrai, elle lui... il n'est pas capable de procéder à des raisonnements très subtils, mais il est capable d'avoir le cœur ému par les représentations de la vie du Christ et des saints. Donc c'est un appel à l'affectivité, à la compunction, comme il disait, qui aide la piété, qui est non pas tellement la foi, mais la piété.
Voilà, oui, oui, absolument. Hein? Alors, à la Besançon, vous évoquiez donc justement les églises orientales. Deux grandes dates, 725 pour détruire les images et 843 pour rétablir le culte des images.
Ah oui, alors, justement, ça c'est l'empereur...
Léon III. Alors celui-ci, justement, s'appelle Léon III.
C'est bien Léon. C'est bien Léon. Il a détruit l'image du Christ qui était à la porte du palais impérial. Voilà. Il l'a remplacée par une inscription. Et un peu plus tard, ils l'ont remplacée d'ailleurs par par une simple croix, sans le Christ attaché dessus, n'est-ce pas, qui était en somme le symbole de notre foi.
J'en profite d'ailleurs pour dire que dans votre livre, j'ai pris grand intérêt à lire toute l'histoire du crucifix, parce que je ne la connaissais pas et ça m'a beaucoup intéressé. Et alors, c'est une femme, l'impératrice Théodora, qui décrète que de nouveau, en 843...
Il fallait pas oublier quand même que dans l'Empire byzantin, vous aviez quand même des tendances monophysites et ariennes, et puis vous aviez également la pression de l'islam. Le monde byzantin était en guerre contre l'islam. Et l'islam et les juifs ne se gênaient pas pour dire aux chrétiens, mais enfin, qu'est-ce que vous faites de votre propre écriture ? Le commandement est extrêmement net, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne représenteras rien. Or, vous le faites. Hein ? Donc, il a fallu toute une discussion théologique qui a tourné, bien entendu, autour de l'incarnation. Parce qu'en somme, le premier qui avait fait une image humaine de Dieu, ben c'était le Christ lui-même en s'incarnant.
Bien sûr. Voilà.
Et finalement, tout a tourné autour de ça, que nier la possibilité de l'image, c'était nier l'incarnation.
Au Moyen-Âge, au contraire, on aborde une période féconde pour la production des images religieuses, images au sens large, hein, tant la peinture
toujours,
que la
toujours
sculpture.
Sur le plan de la rhétorique, c'est-à-dire que le fabricant d'icônes byzantin faisait son icône dans une atmosphère de purification, de prière, de piété, de théologie, et ne devant pas s'écarter de modèles extrêmement précis, ce qui limitait énormément l'invention.
Ce qui l'a tué, finalement.
Ce qui a finalement fini par tuer l'icône, parce que c'est toujours la même chose. En Occident, l'artiste n'étant pas en somme concerné par les problèmes théologiques, à condition qu'il ne viole pas l'honnêteté,
Elle était beaucoup plus libre et
pouvait faire ce qu'il voulait.
Plus fécond.
Donc vous avez eu une formidable poussée
de création.
De création de toutes les formes, d'ailleurs, que l'Occident a toujours gardé, malgré cette contre-offensive qui commence à se dessiner au XVIe siècle et qui reprend les arguments philosophiques. Et alors j'avais donné d'ailleurs trois grands iconoclastes, philosophiques.
Calvin, dont vous avez déjà parlé.
Calvin, Pascal.
Pascal
et n'oubliez pas que les jansénistes...
Qui n'aiment pas l'image, Pascal.
Ils n'aiment pas l'image. Et puis, attention, ils ont cassé d'innombrables vitraux au XVIIIe siècle. Ils ont démeublé les églises.
Pas Pascal, le pauvre homme.
Non,
mais
pas Pascal.
Mais
enfin, il n'aimait pas. Je ne vois pas tellement des tableaux ou des tableaux profanes sur ses murs. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Et les religieuses de Port-Royal étaient accusées d'être iconoclastes par les jésuites qui ne les aimaient pas.
Et troisième personnage,
C'est Kant.
Kant, voilà.
Kant pour qui là c'est au maximum l'idée philosophique qu'il est indigne et qui indigne de Dieu de le représenter sur la planche et il reprend d'ailleurs comme le commandement le plus sublime de toute la Bible, tu ne représenteras pas.
Alors un dernier mot, Alain Besançon, sur l'art chrétien contemporain. Vous avez visité la section contemporaine du musée du Vatican et je crois que vous avez été très attristé ou déçu?
Oui, ça c'était... Non, c'est épouvantable, c'est une succession de croûtes. Mais depuis, il y a pire. D'abord, vous avez eu depuis Vatican II une tendance à un nouveau déménagement des églises.
Oui.
Aller à la cathédrale...
Ça revient maintenant, non?
Oui, mais enfin, ça fait forme. Aller à la cathédrale d'Évry, c'est une pré-mosquée. Enfin, il n'y a rien.
Un pré-temple
maçon. Enfin, c'est un beau bâtiment d'ailleurs. C'est un beau bâtiment très soigné, très beau. Mais pour un chrétien...
Sans représentation du divin.
Pratiquement sans représentation. S'il y a dans un coin, il y a une statue tirée des siècles. Une vieille statue romane qu'on a mis là et qui est un peu au froid.
Alors malheureusement,
mais je crois
oui.
d'ailleurs que c'est un problème, c'est qu'on n'arrive plus à représenter l'image du Christ et de la Vierge alors que c'est autrefois très spontané. Le plus mauvais barbouilleur, le peintre d'icônes le plus maladroit faisait une image qui était où les fidèles reconnaissaient tout de suite le Christ et la Vierge. Et maintenant, ils font des poupées Barbie ou des négresses. C'est
ne parlons pas de malheur, ne pensons pas que les iconophiles ont définitivement perdu et que les iconoclastes auraient définitivement gagné. Le sacré et le profane vont peut-être rester associés pour un certain
temps.
Ils
le font parce qu'ils se fécondent l'un l'autre.
En tout cas, je ne saurais que conseiller la lecture de votre ouvrage, donc Alain Besançon, L'image interdite, une histoire intellectuelle de l'iconoclasme, qui est paru en 1994 chez Fayard, mais que l'on peut trouver maintenant en folio chez Gallimard, ce qui est peut-être plus facile pour la lecture. Merci, monsieur Besançon.
Merci, madame.